très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives. Bonjour à tous, vous écoutez Archives sur Radio Saint-Afrique. Bienvenue dans cette deuxième émission et bonne année à tous au passage. Dans ce format, il s'agit de remettre des vieilleries au goût du jour. Un travail à base de bandes magnétiques numérisées qui vous permet d'entendre ou de réentendre, si vous êtes déjà un auditeur vétéran, des émissions dont la diffusion se situe entre 1985 et 2000. Pour ce numéro, je vous propose, à la suite de l'émission sur la spéléo en Papouasie que vous avez pu entendre le mois dernier et qui s'inscrit dans la longue liste des micros ouverts animés par Gilles Margeran, de partir en pays Vanuatu, toujours avec Guilain Mestre, invité à sa table afin d'en savoir plus long, comme par exemple que ces îles sont plus connues sous le nom de Nouvelles Hébrides. Je vous laisse embarquer pour une demi-heure de voyage.
Micro ouvert à Guilain Mestre, dont la famille est originaire du sud d'Aveyron et qui lui-même est né à Montpellier, qui est enseignant de formation au départ et qui, par passion, par plaisir, a pas mal voyagé. Il a vécu à Nouméa et il passait souvent par un pays peu connu qui s'appelle le Vanuatu. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, Guilain, sur ce pays qui fait rêver. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite carte postale géographique, historique, de savoir parce que je ne sais pas si les gens connaissent bien le Vanuatu.
Le Vanuatu, ça parle à peu de gens. Par contre, certains peuvent avoir entendu parler des Nouvelles Hébrides. Le Vanuatu, donc, était les Nouvelles Hébrides jusqu'en 1980. C'était un condominium franco-anglais, c'est-à-dire qu'à l'époque de la colonisation du Pacifique au XIXe siècle, les Français et les Anglais étaient en compétition pour la conquête territoriale et se sont retrouvés à peu près au même moment, précédés par leurs missionnaires, protestants pour les Anglais, catholiques pour les Français, donc sur l'archipel du Vanuatu, sur les îles qui constituaient donc cet archipel. Et ils se sont retrouvés à peu près à un rapport de force égal et ont décidé donc d'administrer en commun cet archipel qu'ils ont appelé les Nouvelles Hébrides et qui donc a été pendant pratiquement un siècle sous domination commune franco-anglaise. Ça s'est pas très très bien passé parce que les Anglais s'entendaient pas trop avec les Français.
C'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire, donc c'est un pays qui s'est retrouvé un peu toujours pris entre deux feux, sans que ça ait quand même des conséquences dramatiques, parce qu'il faut dire que ça n'a pas été non plus une colonie de peuplement, il n'y avait pas de richesse extraordinaire à en tirer, ce qui fait que les habitants se sont retrouvés relativement tranquilles pendant cette période-là, jusqu'à ce que les Anglais et les Français décident qu'il y en avait assez de se disputer pour quelques cailloux au milieu de l'océan, et donc ont accordé l'indépendance en 1980 au Vanuatu.
Ah oui, c'est récent alors, l'indépendance du Vanuatu, donc.
C'est assez récent, oui. Quand je dis que les habitants sont restés assez tranquilles, il faut tempérer ça par le fait que jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu ce qu'on a appelé le blackbirding dans cette partie du Pacifique, c'est-à-dire qu'il y avait des bateaux qui venaient recruter de la main-d'œuvre pour les plantations de canne à sucre à Fidji, au Queensland, et pour les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Et c'était une forme de recrutement qui était quand même très proche de l'esclavage.
Ces îles, ça fait penser un petit peu, je dirais, à la carte postale que tout le monde a dans la tête. C'est les cocotiers, c'est le sable, c'est l'eau claire à 28 ou 30 degrés. C'est dans cet esprit-là ou pas du tout?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est un archipel de 80 îles environ pour une superficie totale qui doit être, mettons, deux fois celle de l'Aveyron. Des cocotiers partout, parce qu'il y a eu des grandes plantations de cocotiers. D'ailleurs, je crois que le Vanuatu est un des plus gros producteurs par tête d'habitants de copra. Le copra, donc, est tiré de la noix de coco. Il faut quand même tempérer ce cliché paradisiaque par la fréquence des cyclones. Les cyclones, là-bas, sont donc particulièrement fréquents et souvent violents. Il y en a encore eu un cette année. Heureusement, Il était encore en formation quand il est passé sur le Vanuatu. Par contre, il a dévasté complètement la côte est de la Nouvelle-Calédonie.
Ce qui veut dire probablement des constructions légères. Est-ce qu'il y a des grandes villes? Ou est-ce que c'est vraiment des villages traditionnels?
Il y a deux grandes villes à l'échelle du pays. Il y a Port-Vila qui est la capitale, qui doit avoir environ 20 000 habitants. Et puis Luganville qui est la capitale de l'île de Santo dans le nord et qui était en fait la capitale surtout de la zone d'influence française avant l'indépendance.
La population parle les deux langues, anglais, français, enfin deux langues et plus probablement leur langue propre, mais...
Alors, le bilinguisme est un petit peu à la source de la polarisation actuelle de la politique, c'est-à-dire qu'il y a des partis anglophones et des partis francophones. Ça commence à se mélanger un petit peu maintenant. Il y a environ, on considère qu'il y a 60% des gens qui parlent anglais et 40% qui parlent français. Parmi ceux qui parlent l'une des deux langues, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui parlent simplement ce qu'on appelle le bichlamar, c'est aussi une des langues officielles du pays, qui est une langue qui s'est créée au 19e siècle par la communication entre donc, tous les marins qui venaient dans le coin et puis les indigènes.
D'accord, c'est une sorte donc d'argot, de pidgin ou de...
Voilà, c'est une sorte de... On peut appeler ça un pidgin, d'ailleurs c'est très proche du pidgin English de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où c'est une forme de créole à base de vocabulaire anglais qui a été modifié.
Voilà, on peut rapprocher, vous venez de parler de créole, est-ce qu'on peut rapprocher ça un peu des Antilles ou de quelque chose, ou plus, c'est plus Nouméa, c'est plus Nouvelle-Calédonie, ça se ressemble un petit peu comme...
Par rapport aux Antilles, je ne connais pas les Antilles, mais je crois qu'il y a quand même une différence fondamentale qui est la population. C'est-à-dire que le Vanuatu est un pays qui est très peu peuplé par rapport à sa superficie. Il y a 200 000 habitants en tout. Par rapport à la Nouvelle-Calédonie, c'est la composition de la population qui est très différente. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, la population indigène, les Kanaks actuellement, ne sont pas majoritaires, sont pas tout à fait 50% de la population. Au Vanuatu, 95% de la population est originaire du pays.
Donc vous vous êtes baladé sur plusieurs îles, vous n'avez pas fait tout l'archipel parce que 80 ça fait beaucoup quand même. On se déplace en bateau ou il y a des petits avions qui font des sauts de puce, comment ça se passe?
Non, on se déplace essentiellement en avion maintenant. L'avion est un petit peu plus cher que le bateau mais quand même beaucoup plus pratique. Il y a une compagnie aérienne qui fonctionne bien, c'est d'ailleurs une des rares à être rentable dans le Pacifique. Des petits avions, des twin otters, c'est-à-dire en quelque sorte le 4x4 de l'aviation qui peut se poser sur des petites pistes en terre, qui dessert remarquablement bien tout l'archipel, donc les gens se déplacent beaucoup en avion.
Il y a quand même des Occidentaux, des Anglais, des Français qui sont restés là-bas. Est-ce qu'il y a une forme de néocolonialisme? Est-ce qu'ils ont fait souche, je dirais, un peu ce qui s'est passé à Nouméa ou dans les environs
Dans la mesure où le Vanuatu n'a jamais été une colonie de peuplement, on ne peut pas vraiment parler, pas du tout comparer en fait avec la Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a une communauté française qui subsiste essentiellement à la capitale Port-Vila, un petit peu aussi à Luganville, mais pas beaucoup dans la mesure où la plupart des Français en fait se sont fait expulser au moment de l'indépendance parce qu'il y a eu un petit peu des problèmes à ce moment-là. La communauté anglophone en fait est essentiellement constituée maintenant d'Australiens et de Néo-Zélandais. Et puis, il y a d'autres communautés, notamment asiatiques. Il y a beaucoup de Chinois, de commerçants chinois, particulièrement à Luganville. Des Vietnamiens, un petit peu, aussi.
Et tout le monde vit, je dirais, en bonne entente? Ou est-ce qu'il y a des quartiers qui sont réservés ou des choses comme ça? Est-ce qu'on peut parler de mélange, par exemple?
Pas vraiment, mais on ne peut pas non plus parler véritablement de ségrégation dans la mesure où c'est plutôt des différences culturelles qui sont constatées, mais il n'y a pas d'animosité. C'est un pays qui est très détendu, où les relations humaines sont très détendues. Bon, bien sûr, il y a des différenciations sociales au niveau de la capitale. Après, en brousse, excusez-moi, la brousse, c'est la définition de tout ce qui n'est pas la capitale dans ces pays-là. Les gens vivent en tribu. Là, c'est essentiellement donc, des Nivanuatu. Les habitants du Vanuatu sont appelés les Nivanuatu.
Et vous avez été donc en brousse, vous avez été dans les villages, vous avez été reçu
Toujours très bien reçu, oui. Les gens sont souriants. D'ailleurs, c'est une des choses qui frappe le plus quand on vient de Nouvelle-Calédonie, où là, les relations, surtout actuellement, sont relativement tendues. Au Vanuatu, on a une douceur de vivre, un calme qui sont vraiment extraordinaires. Une délinquance qui doit être une des plus faibles du monde. Ça, c'est quelque chose qui... On peut se balader à toute heure dans n'importe quel quartier. Même une femme seule n'aura pas de problème. C'est vraiment un pays tranquille.
Peu de violence, donc, et les gens heureux de vivre. Toujours la carte postale, un petit peu, donc c'est vrai, ça existe.
Là, il faut dire peut-être qu'il y a une cause plus mécanique. Disons, si on compare par exemple avec la Nouvelle-Calédonie, où l'alcool fait des dégâts énormes et est la cause de 90% de la violence, au Vanuatu, les gens ont une drogue locale qui s'appelle le kava, qui consomme donc maintenant, il y a peut-être à la capitale 150 bars à kava. C'est une boisson qui est fabriquée à partir d'une racine, d'une plante, et qui a un effet calmant. Donc tant que les gens boivent du cava plutôt que de la bière, et ben, ils sont détendus.
Ton futur a des ailes, mais ne sait pas voler. Ton présent est absent, il s'est trop éclaté. Sur le goudron des routes, tu te lèves et tu doutes. Ton seul ami fidèle, eh bien c'est ton passé.
Les vagues de Nouméa, ou de Lifou plutôt, de l'île de Lifou, avec les chants traditionnels kanak sur le premier disque du groupe Réglisse, puisque l'un des musiciens est kanak d'origine, et ce groupe a tenu à ce qu'il y ait effectivement un chant traditionnel, et ça nous rapproche un petit peu du Vanuatu, c'est pas très loin de Nouméa, il y a une ambiance un tout petit peu comparable, sauf qu'au Vanuatu, ça a l'air d'être beaucoup plus gentil, beaucoup plus tranquille. Ça a l'air de bien se passer du fait de, justement, l'absence ou presque d'alcool. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des tentations, des tentatives? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont envie de vendre de l'alcool
Si, mais d'ailleurs, il y en a qui en vendent. Simplement, il faut savoir que le Vanuatu est un pays dit sous-développé, donc avec un très faible pouvoir d'achat. La majorité de la population vit encore complètement en dehors du système économique, c'est-à-dire en économie vivrière. Ils vivent de leur jardin, ils construisent leur maison avec les feuilles des cocotiers. Et c'est ce qui fait en fait aussi le succès du cava, qui bon, est déjà une boisson traditionnelle, mais qui en plus coûte bien moins cher que la bière, puisqu'on peut la produire localement.
Il n'y a pas un danger, moi j'ai toujours peur quand on parle de paradis terrestre comme ça, des touristes, du tourisme à grande échelle, les clubs de vacances, tout ça, ça a l'air d'être l'endroit idéal pour installer certains clubs.
Oui, le tourisme se développe au Vanuatu, d'ailleurs avec le soutien des pouvoirs publics. Il faut savoir quand même que le Vanuatu est un pays qui a peu de ressources et qui donc cherche à développer ses potentialités. Alors il y a deux types de tourisme en fait. Il y a des grands hôtels de classe internationale à Port Vila, la capitale. Et puis il y a quelque chose qui se développe qui à mon avis est un bon système de développement, c'est-à-dire l'accueil chez l'habitant. Ce sont les gens des tribus qui construisent des gîtes avec des paillotes, un confort relativement rudimentaire mais un cadre paradisiaque, et qui donc accueillent les gens pour un prix très abordable. Et donc c'est des vacances avec relations humaines aussi.
C'est ce que vous avez fait, vous, donc c'est un peu votre expérience. Au départ c'était un petit peu touristique, et puis après vous êtes tombé amoureux du pays.
Au départ c'était ça, oui.
Et comment ça s'est passé justement, le passage de l'envie touristique à envie d'y rester, parce que je crois que vous voulez vous y installer.
Ça s'est passé pas du jour au lendemain comme ça, c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y avait longtemps que j'avais envie de bouger, le Vanuatu me tentait énormément. Et puis un jour sur le marché, en passant, donc un jour où j'étais en visite au Vanuatu, j'ai vu donc ces fameuses noix, les nangai, et je me suis dit tiens, c'est intéressant, c'est quelque chose qui était très bon. Donc j'ai commencé à me renseigner pour savoir d'où ça venait, comment c'était produit, etc.
Alors à quoi ça ressemble, la noix de Nangai ?
Une fois décortiquée, ça ressemblerait à une amande en un peu plus gros. Mmh. Voilà. Au niveau de l'aspect maintenant, au niveau de la consistance, ça ressemblerait à notre noix d'Europe, c'est-à-dire une amande relativement grasse et donc tendre. Et au niveau du parfum, le plus proche serait le pignon de pin.
Oui, effectivement, ça donne envie. On en trouve en France, il est possible.
On n'en trouve absolument pas en France. On en trouve un peu au Vanuatu sur les marchés ruraux. C'est un produit en fait qui vient d'un arbre local, donc de la Mélanésie, c'est-à-dire qu'on en trouve au Vanuatu, aux îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, et une variété un peu différente aux Philippines, paraît-il, mais je n'ai pas vu.
Donc il y a la nangai, et il y a une autre noix à laquelle vous vous intéressez aussi.
Une autre noix qui s'appelle là-bas la navelée, qui est le fruit d'un autre arbre semblable, qui lui est encore plus limité en extension géographique, c'est-à-dire on en trouve au Vanuatu et sur l'archipel des îles Salomon à côté, et qui est une noix beaucoup plus dure et qui est beaucoup plus grosse aussi, et qui en fait une fois fractionnée est délicieuse en apéritif de la même manière que les amandes ou les noix de cajou.
Alors justement, vous vous êtes dit en voyant ces noix sur le marché, tiens, c'est intéressant, c'est bon, on ne trouve pas ça chez nous, et vous avez eu envie de monter un projet, racontez-nous.
Voilà, alors au départ c'était un peu une idée en l'air, parce qu'on se lance pas comme ça, donc j'ai commencé à me renseigner. Il se trouve qu'il y avait une étude assez détaillée qui avait été faite il y a quelques années par l'Orstom, une étude surtout au niveau botanique qui répertoriait les sous-espèces, les endroits où elles étaient cultivées, etc. Ce qui m'a donné une première base. Je suis retourné au Vanuatu pour me renseigner, pour savoir la place en fait de ce produit dans la société du Vanuatu. Alors il s'agit en fait d'un arbre qui pousse aussi à l'état sauvage, mais qui a peu au cours des siècles été domestiqué et cultivé au bord des jardins, le long des chemins, près des maisons, qui produit beaucoup de noix, dont une partie est collectée pour la consommation, soit directement sur place comme les enfants chez nous cassent les amandes au pied de l'arbre. Il y en a une partie qui est conservée, qui est utilisée dans la cuisine traditionnelle, mais la plus grande partie en fait est abandonnée au pied des arbres. Et donc il y avait moyen de valoriser donc une production
qui profite à personne.
Voilà.
Ouais. Et vous êtes dit, bon, avec de petits moyens, moi je vais me débrouiller, essayer de racheter ces noix, de les faire récolter, de les récolter et de les exporter. Donc.
Voilà, alors il s'est avéré qu'en fait, les petits moyens, il en faut quand même un petit peu pour transformer, puisqu'il s'agit quand même d'acheter les noix en coque. Une coque particulièrement dure qui nécessite un casse-noix particulier pour les casser. Bon, traditionnellement, ils sont cassés avec un caillou, mais on ne peut pas trop s'amuser à faire ça pour le commerce. Donc, il a fallu mettre au point du matériel adapté. Et donc, monter toute une chaîne de traitement, c'est en cours, pour décortiquer, griller et puis en sachet de façon à conserver, parce que c'est le problème. Les durées de bateau entre le Vanuatu et l'Europe sont d'environ 2 à 3 mois. Et donc, il fallait trouver un conditionnement parfait pour conserver ces produits jusqu'en Europe.
Et alors, c'en est où, donc, le projet, là, maintenant? Est-ce qu'il prend corps? Vous avez l'air de dire que c'est de parler pratiquement au présent. Ça fonctionne déjà
ou... Mais disons que là, actuellement, je suis en France pour trouver, d'une part, le complément de capital pour monter l'affaire, parce qu'il en manque encore un petit peu, et puis pour trouver des clients qui achèteraient donc ces noix. Donc là, je me tourne essentiellement vers les pâtissiers ou les biscuitiers, parce que c'est un produit qui peut se positionner facilement à côté du pignon de pain en pâtisserie ou en biscuiterie et pour un prix de revient très compétitif.
Au niveau psychologique, donc, le fait de s'installer là-bas, vous êtes étranger. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on ne culpabilise pas quelque part à un moment donné? Ou est-ce que pour vous, ça semble évident? Vous allez être bien intégré, bien accepté? Est-ce qu'il n'y a pas un côté un petit peu comme ça néocolonial, quoi?
Mais il y a un côté qui aide beaucoup au Vanuatu, c'est que les gens sont très accueillants, y compris au niveau de tous les services des fonctionnaires auxquels j'ai eu affaire, que ce soit, au niveau de l'immigration. Bien qu'ils ont quand même des barrières qu'il faut franchir, mais à partir du moment où vous acceptez, on est accepté, donc on a le droit d'être dans ce pays-là. Les services de l'agriculture, les coopératives, d'autres services, j'en oublie, ont tous réservé un accueil très favorable à ce projet, qui en fait est un projet qui participe au développement du Vanuatu dans un sens positif, dans la mesure où il s'agit dans une mesure faible, mais il faut voir aussi que le Vanuatu est un pays qui a une économie quand même assez restreinte, donc aux exportations, par rapport à un produit donc, qui est naturel, qui ne va pas spolier les gens puisque c'est leur surproduction qu'ils vont vendre, et qui va aussi contribuer donc à développer une nouvelle valeur ajoutée venant de la forêt, sans détruire la forêt, parce qu'un des problèmes aussi au Vanuatu, c'est la déforestation. Alors les Vanuatés sont quand même assez lucides par rapport à ce problème-là. Il y a eu des débuts d'exploitation forestière sur certaines îles de l'archipel qui ont été bloquées par le gouvernement maintenant parce qu'ils avaient fait assez de dégâts comme ça. Récemment, il y a encore eu une délégation donc, d'un pays désirant exploiter le bois qui est venue avec plein de ministres et qui se sont fait renvoyer proprement, gentiment, mais proprement par le gouvernement vanuaté qui préférait développer d'autres ressources dont... Dans celle-ci.
Apparemment, donc, vraiment, au Vanuatu, les gens ont l'air, je dirais, non seulement ils sont calmes, ils sont gentils, ils sont accueillants, mais en plus intelligents. Enfin, je veux dire, ils n'acceptent pas n'importe quelle personne qui viendrait leur proposer la lune. Et votre projet s'intègre complètement là-dedans, puisque c'était quelque chose qui ne se faisait pas, et c'est une chance maintenant.
C'est voilà, d'autant plus que c'est aussi un projet à taille humaine, donc sur lequel ils auront toujours des moyens de contrôle. Je ne suis pas une multinationale qui a les moyens de corrompre tout le gouvernement. Donc ça leur fait beaucoup moins peur aussi.
Bien sûr. Et votre statut, c'est quoi? Alors vous avez un visa pour un certain temps, ou vous êtes résident? Comment
voilà,
ça se
alors,
passe?
Maintenant, j'ai un permis de séjour, donc renouvelable chaque année, en tant qu'investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui crée une activité économique sur le Vanuatu. Ça, c'est une politique en fait, du gouvernement de développer les activités économiques, donc d'attirer... Les étrangers qui veulent développer des activités économiques dans le pays. Je me situe dans ce cadre-là. J'ai eu besoin d'une patente commerciale qui, elle aussi, est accordée facilement par rapport au projet.
Et vous vous êtes fait des amis, des relations autour? Il y a des gens qui vous attendent là-bas? Il y a un cercle de gens que vous connaissez sur place?
Disons que les relations, ça prend toujours du temps, oui, mais je commence maintenant à avoir des relations assez cordiales avec beaucoup de gens qui ont été mes interlocuteurs au départ, parce que une des grosses difficultés pour monter une telle entreprise, c'est d'avoir accès aux producteurs. Parce qu'il faut voir donc qu'avec 80 îles, il est très difficile de collecter le produit pour le centraliser. Donc on est obligé de discuter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs différents, de différents horizons.
Et donc ça oblige aussi à se balader un petit peu. Vous êtes
un
obligé
petit peu. Pour l'instant, je ne me suis pas baladé trop, dans la mesure où je n'aurais pas non plus la possibilité, ni le temps, ni les moyens d'aller sur chaque île chercher les noix. Donc j'ai surtout cherché à me mettre en relation avec les réseaux déjà existants, les caboteurs, parce qu'il y a un système donc de cabotage qui arrose tout le
voilà, tout qui fait le transport entre les îles, etc. Et là, il n'y a pas trop de on n'est pas obligé de donner le bakchich ou des choses comme ça, parce que dans beaucoup de pays, c'est ce qui se passe. Dans ces cas-là, dès qu'on a les relations, je veux dire, commerciales, se font de façon honnête, claire.
De façon relativement saine, oui. Les caboteurs sont des entrepreneurs privés à qui je paierai le prix du transport.
D'accord. On ne peut que vous souhaiter bonne chance pour cette entreprise. On pourrait peut-être, si vous le voulez bien, conclure sur ce pays de rêve. Vraiment, on a envie d'y aller, hein, c'est clair. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gens qui suivront ce conseil et ce désir. Mais est-ce que... Quand on vous dit Vanuatu, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour par rapport à tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, mais essayez de résumer en deux, trois phrases ce pays où vous allez résider, où vous allez vivre.
En deux, trois phrases, c'est un petit peu difficile. C'est l'impression d'être en vacances dès qu'on sort du boulot, en fait, aussi. C'est un pays qui cumule beaucoup d'avantages, c'est-à-dire à la fois la chaleur du soleil et puis la chaleur humaine aussi. C'est quelque chose quand même qui est particulièrement agréable de pouvoir discuter avec les gens, d'avoir toujours un contact à la fois facile mais qui rapidement n'est pas superficiel. On peut communiquer réellement. Des gens qui sont assez ouverts. Oui.
Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci, Guillain, en tout cas, et puis bonne chance pour cette entreprise. C'était Micro Ouvert avec Guillain Mestre et une petite carte postale du Vanuatu.
Retour en 2014. Si, même si c'est seulement depuis quelques jours, il va falloir s'habituer à prononcer. Vous écoutez Archives sur Radio Saint-Afrique, bien sûr, et c'est vers un document tout particulier que je souhaite attirer votre attention maintenant. En effet, hors du contexte de la rédac ou même du bénévolat qui ont changé l'un et l'autre au fil des années, on retrouve de petites perles inédites et ponctuelles, par exemple dans le fin fond du fatras géant du siège social d'une association saint-africaine, et donc qui, parfois, comme celle-ci, échappe de justesse à la disparition. Voici donc une bande réalisée à l'occasion des 15 ans de la radio en 1996. Vous avez peut-être eu la chance de tomber dessus il y a quelques semaines sur les ondes, car c'est la version retouchée pour et par le jeune au mois de décembre que l'on écoute maintenant.
Depuis quand les gens ont-ils des choses à dire?
Non, Mikon, tu lui t'appartiens de Maloya.
Ma chante au feeling du plus beau.
Maloya.
Radio Sainte-Afrique.
Un tour du monde de bandes magnétiques. Un semi-remorque de cassette.
Depuis quand les gens ont-ils des choses à dire?
Mesdames et messieurs, la cour, l'audience est ouverte.
Accusé, levez-vous. Radio Sainte-Afrique, vous êtes né en l'an de grâce 1981 au lieu dit Colline de Peyralbe, à l'initiative de quelques minorités politico-culturelles et de quelques individus qui se sont adonnés par plaisir à la libre expression radiophonique. Vous confirmez?
Coco. Et je vais dire Radio Sainte-Afrique, affirmatif, coco.
Je suis Jobard, je suis complètement Jobard. Je suis Jobard, je suis complètement Jobard.
Radio Sainte-Afrique, vous êtes accusé d'être libre, indépendante, joyeuse et associative.
Libre est l'état de celui qui jouit de liberté. Liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne.
Pour éclairer la cour, j'ajouterai que vous semblez être fier de sévir sur les ondes alors que tant d'autres ont disparu. Vous ne manquiez pourtant pas de détracteurs pressés de vous enterrer, me semble-t-il, et qui ne vous accordaient que 6 mois d'existence. Nous ne sommes pas à vendre, c'est ce que vous avez à plusieurs reprises déclaré.
Pas de pays sans paysans.
Pas de région sans si.
Marc.
Pas de si.
Pas de ça.
Sans souci.
Sans cela.
Pas de.
Fumée.
Sans feu.
Pas d'idée.
Sans être.
De...
D'après ce que je constate, et alors que nous sommes en 1996, vous êtes toujours là, ouverte à tous, et vous vous permettez de pratiquer l'humour et la dérision, malgré les dérapages qu'on a pu vous reprocher. À ce jour, vous totalisez 5465 jours de radio. 10 fêtes de la musique, 16 stages franco-allemands, un tour du monde de bandes magnétiques, un semi-remorque de cassettes, et combien de temps perdu à rencontrer, écouter et interviewer des gens. On entend bien souvent chez vous d'ailleurs le directeur du théâtre de Causse, un peu trop me semble-t-il. Depuis quand les gens ont-ils des choses à dire,
À notre porte, le malheur existe.
Savoir, c'est vivre, et maintenir dans l'ignorance, c'est presque un homicide.
J'aimerais attirer l'attention des jurés sur le fait que, pendant des années, vous avez osé brouiller de façon perfide votre message, en l'accompagnant de saturation, parasites, bruit de fond et autres machiavéliques stratagèmes. Ce qui ne permettait qu'aux plus motivés de vous écouter. Je souhaiterais obtenir quelques explications sur un sondage mentionnant 1% d'auditeurs de Radio Sainte-Afrique dans le Pas-de-Calais.
Oh, ok, vous ne faites pas l'erreur,
vous êtes bien connecté sur la radio sans concession.
Agnès Varda, Henri Chapier est à l'appareil. Et moi, je vous recommande absolument d'écouter Radio Sainte-Afrique. Radio Sainte-Afrique est une radio essentiellement féminine, ça va de soi. Mais sur la croisette, tout le monde en parlait. Et je trouve Radio Saint-Af tout à fait bouleversifiant.
Je passerai sur les invités qu'on assassine, comme ce président d'une société de pêche qualifié de persécuteur nazi. Sur les accidents provoqués par l'escalier de votre tour infernale. Ah oui, ça, elle est infernale. La diffusion d'images pornographiques. Les grossièretés et autres légèretés commises depuis 15 ans. Venons-en à des allégations plus récentes. On vous a accusé d'avoir fait perdre une élection municipale. Et pourquoi pas en faire gagner une autre pendant que vous y êtes, hein? Vous avez même été utilisé comme pièce à conviction au sein d'un différend entre un maire et son premier adjoint.
Chers auditeurs, le maréchal Patin vous parle.
Auditeurs, auditrices, je me suis adressé aujourd'hui à nos producteurs pour leur demander s'ils sont prêts à rechercher avec nous et dans l'honneur.
L'involution, ça veut dire... L'involution, c'est... L'involution, ça veut dire...
La Radio Sainte-Afrique, c'est super, hein, hein. Moi, j'aime beaucoup.
En conséquence, j'en appelle aux jurés pour qu'ils rendent leur verdict.
Et avec ma femme, je dois avouer que Radio Sainte-Afrique, c'est vraiment formidable. Je vous conseille, chers auditeurs, de ne jamais quitter l'antenne de Radio Sainte-Af.
Oh oui, jugez. Ma pauvre Simone, si tu savais depuis combien d'années que j'écoute Radio Sainte-Afrique, t'en aurais encore les oreilles qui tomberaient par terre et tes yeux seraient tous esgourbis.
Pssst ! Voilà. Je remonte à la surface, Nicolas Hulot. Séquence audition. Pshut.
Voici le verdict de messieurs les jurés après 18 heures de délibération. Radio Sainte-Afrique est condamnée. Debout, s'il vous plaît, messieurs les accusés. Vous êtes condamnés à 15 ans, voire 30 ans d'émission supplémentaire.
Au bar, je suis toujours fourré au bar. Au bar, je suis toujours fourré au bar.
Vous venez d'entendre une bande spécialement réalisée pour l'anniversaire des 15 ans de la radio dans Archive, la mensuelle qui remet les anciens sur pattes. Bon après-midi et bon dimanche à tous à l'écoute de Radio Sainte-Afrique.
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives.